Chapitre 16. Le dieu fou. Les quelques hommes blancs qui se trouvaient à Fort Yukon vivaient depuis longtemps dans la contrée. Avec orgueil, ils se dénommaient eux-mêmes le Sword Oaks ou Pattes Aigres, parce qu'ils préparaient sans levure un pain légèrement acidulé. Ils ne professaient que du dédain pour les autres hommes blancs qu'amenaient les vapeurs et qu'ils désignaient sous le nom de Tchéchakos, parce que ceux-ci faisaient au contraire lever leur pain pour le cuire. De ce fait, il y avait antagonisme entre les uns et les autres, et les gens du fort se réjouissaient de tout ce qui survenait de désagréable aux nouveaux arrivants. Spécialement, ils se divertissaient beaucoup des mauvais traitements infligés aux chiens qui débarquaient par Cro-Blanc et sa détestable bande. À chaque vapeur qui faisait halte, il ne manquait pas de descendre au rivage et d'assister à l'inévitable bataille. De la tactique adroite et méchante employée par Cro-Blanc et par les chiens indiens, il riait à gorge déployée. Parmi ces hommes, l'un d'eux surtout, s'intéressait à ce genre de sport. Au premier coup de sifflet du steamboat, il arrivait en courant et, lorsque le dernier combat était terminé, il remontait vers le fort, la face comme alourdie du regret que le massacre eût déjà pris fin. Chaque fois qu'un inoffensif chien du sud avait été terrassé et jetait son râle d'agonie sous les crocs de la troupe ennemie, incapable de contenir sa joie, il se mettait à gambader et à pousser des cris de bonheur. Et toujours aussi lançait vers Cro-Blanc un dur regard d'envie pour tout le mal dont celui-ci était l'auteur. Cet antipathique individu avait été baptisé Beauty par les autres hommes du fort. Beauty Smith était le seul nom qu'on lui connaissait dans la région. Nom qui était, bien entendu, une antithèse, car celui qu'il portait n'était rien moins qu'une beauté. La nature s'était montrée avare envers lui. C'était un petit bout d'homme au corps amaigriot, sur lequel était posée une tête plus maigre encore. Un simple point, eût-on dit. Aussi, dans son enfance, avant d'être nommé Beauty par ses compagnons, le surnommait-on Pinhead, tête d'épingle. En arrière, cette tête descendait toute droite et d'une seule pièce vers le cou, tandis qu'en avant, le crâne, en forme de pain de sucre, rejoignait un front bas et large à partir duquel la nature semblait avoir regretté soudain sa parcimonie. Devenue prodigue à l'excès, elle avait voulu de gros yeux, séparés par une distance double de l'écart normal. Élargissant démesurément le reste de la face, la mâchoire était effroyable. Énorme et pesante, elle proéminait et semblait au-dessous, reposer à même sur la poitrine, comme si le cou était impuissant à en soutenir le poids. Cette mâchoire, telle qu'elle était, donnait une impression d'indomptable énergie. Impression mensongère, exagération incohérente de la nature, car Beauté était connue de tous pour être un faible entre les faibles, un lâche entre les plus lâches. Nous achèverons de le décrire en disant que ses dents étaient longues et jaunes et que les deux canines, plus longues encore que leurs sœurs, dépassaient comme des crocs de ses lèvres minces. Ses yeux étaient jaunes comme ses dents et chassieux comme si la nature eût fait ruisseler toutes les humeurs qu'elle tenait en réserve dans les canaux du visage. Quant à ses cheveux, couleur de boue et de poussière jaunâtre, ils poussaient sur sa tête, rares et irréguliers, pointant sur le devant de son crâne en touffes et paquets déconcertants. En somme, Beauté était un vrai monstre, ce dont il n'était pas responsable, assurément, et ne pouvait être blâmé, n'ayant pas moulé lui-même l'argile dont il était pétri. Dans le fort, il faisait la cuisine pour les autres hommes, lavait la vaisselle et était chargé de tous les gros travaux. On ne le méprisait pas, on le tolérait par humanité et parce qu'il était utile. On en avait peur aussi. Il y avait toujours à craindre, dans une de ces rages de lâches, un coup de fusil dans le dos ou du poison dans le café. Mais personne ne savait préparer comme lui le fricot, et quel que fût l'effroi qu'il inspirait, Beauté était bon cuisinier. Tel était l'homme qui délectait ses regards des féroces prouesses de Cros-Blanc, et n'eut plus bientôt qu'un désir, le posséder. Il commença par faire des avances au louveteau, qui feignit de les ignorer. Puis, les avances devenant plus pressantes, celui-ci se hérissa, montra les dents et prit du large. Cros-Blanc n'aimait pas cet homme dont l'odeur était mauvaise. Il pressentait que le mal était en lui. Il craignait sa main étendue et l'affectation de ses paroles mielleuses. Il le haïssait. Chez les êtres simples, la notion du bien et du mal est simpliste elle-même. Le bien est représenté par toute chose qui apporte contentement et satisfaction et évite la peine. Et le mal signifie tout ce qui est incommode et désagréable, tout ce qui menace et frappe. Cros-Blanc devinait que Beauty Smith était le mal. Aussi était-il sage de le haïr. De ce corps difforme et de cette âme perverse s'échappaient, pour le louveteau, d'occultes émanations semblables à ces brouillards pestilentiels qui s'élèvent des marécages. Cros-Blanc se trouvait présent au campement de Castor Gris lorsque, pour la première fois, Beauté y fit son apparition. Avant qu'il fût en vue et dès le bruit sur le sol de ses pas lointains, Cros-Blanc avait su qu'il venait et avait commencé à hérisser son poil. Quoiqu'il fût à ce moment-là confortablement couché en un délicieux farniente, il se dressa vivement et, tandis que l'homme approchait, se glissa à la manière des loups sur le bord du campement. Il ne put savoir ce qu'on disait, mais vit bien que l'homme et Castor Gris causaient ensemble. Par moments, l'homme le montrait du doigt, et il grondait alors, comme si la main droite il était distant de 50 pieds, se fût exactement abaissé sur lui. L'homme, qui s'en apercevait, riait, et Cros-Blanc reculait de plus en plus vers le couvert de bois voisin, en rampant doucement par terre. Castor Gris refusait de vendre la bête. Son commerce l'avait enrichi, déclarait-il, et il n'avait besoin de rien. Cros-Blanc était d'ailleurs un animal de valeur, le plus robuste des chiens du traîneau et le meilleur chef de file. Il n'avait pas son pareil dans toute la région du Mackenzie et du Yacoun. Il savait combattre comme pas un et tuait un autre chien aussi aisément qu'un homme tue une mouche. À cet éloge, les yeux de Beauty Smith s'allumaient et d'une langue ardente, il léchait ses lèvres minces. Non, non, décidément, Cros-Blanc n'était pas à vendre. Mais Beauty Smith savait la façon de s'y prendre avec les Indiens. Il rendit à Castor Gris de fréquentes visites et chaque fois était caché sous son habit une noire bouteille. Une des propriétés du whisky est d'engendrer la soif. Castor Gris eut soif. Les muqueuses brûlées de son estomac s'enfiévrèrent, et celui-ci commença à réclamer avec une exaspération croissante le liquide corrosif. En même temps, le cerveau de l'Indien, bouleversé par l'horrible stimulant, enlevait au malheureux tout scrupule pour satisfaire sa passion. Les bénéfices acquis par la vente des fourrures et des mocassins se mirent à partir, et à mesure que s'aplatissait la bourse de Castor Gris, la force de résistance diminuait aussi. Finalement, argent, marchandises et volonté, tout s'en était allé. Rien ne demeurait à Castor Gris que sa soif prodigieuse, qui régnait diaboliquement en lui et dont la puissance augmentait à chaque souffle qu'il émettait sans avoir bu. C'est alors que Beauté revint à la charge et reparla de la vente de Cros-Blanc. Mais cette fois, le prix offert était payable en bouteilles, non en dollars, et les oreilles de Castorgris étaient mieux ouvertes pour entendre. « Bon, le chien est à toi, » finit-il par dire, « si tu veux mettre la main dessus. » Les bouteilles furent livrées, mais deux jours après, ce fut Beauty Smith qui revint dire à Castorgris, « Mais attrape-le donc toi-même. » Cros-Blanc, en rentrant un soir au campement, vit avec un sourire de satisfaction que le terrible dieu blanc, contrairement à son habitude, n'était pas là. Il s'étendit par terre avec volupté, comme si un poids qui pesait sur lui avait disparu. Sa joie fut de courte durée. À peine était-il couché que Castorgris vint vers lui en titubant et lui lia autour du cou une lanière de cuir. Puis il s'assit à côté du louveteau, tenant d'une main la lanière, tenant de l'autre une bouteille à laquelle il buvait de temps en temps, le ventre en l'air en renversant la tête et avec force glou-glou. Une heure s'était écoulée de la sorte, lorsqu'une légère vibration du sol annonça que quelqu'un s'approchait. Cros-Blanc tressaillit et se hérissa, tandis que l'Indien branlait stupidement la tête. Le louveteau tenta de tirer doucement la lanière de la main de son maître, mais les doigts, qui s'étaient un instant relâchés, se contractèrent plus fortement et Castorgris se leva. Beauté entra sous la tente et s'arrêta devant Cros-Blanc, qui commença à gronder vers celui qu'il craignait et à surveiller les mouvements de ses mains. Une d'elles s'étendit, se prit à descendre sur sa tête. Son grondement se fit plus intense et plus rauque. La main continuait à descendre lentement, tandis qu'il se courbait sous elle, tout en la regardant en proie à une colère continue et qui semblait prête à éclater. Soudain, il alla pour mordre. La main se rejeta vivement en arrière et les crocs, retombant les uns sur les autres, claquèrent comme une gueule de serpent qui mord le vide. Beauté était terrifié et furieux. Mais Castorgris donna une tape à Cros-Blanc, qui se coucha aussitôt au ras du sol, en une respectueuse obéissance. Cependant, Beauty Smith, que le louveteau ne cessait pas d'observer, était parti, puis était revenu, porteur d'un gros gourdin. Castorgris lui remit alors l'extrémité de la lanière, et Beauté fit le mouvement de s'en aller. La lanière se tendit. Cros-Blanc résistait. Castorgris le gifla de droite et de gauche, afin qu'il se levât et suivît. Il se leva, mais pour se précipiter en hurlant sur l'étranger qui essayait de l'entraîner. Beauté, qui était parée et ne bougera pas. D'un large mouvement, il lança son gourdin, puis l'abattit sur Cros-Blanc, dont il arrêta l'élan à mi-route et qu'il écrasa presque contre terre. Castorgris riait et approuvait. Beauté tira la lanière à nouveau et Cros-Blanc, tout trébuchant, rampa humblement à ses pieds. Il ne renouvela pas son agression. Un coup de gourdin était suffisant pour le convaincre que le dieu blanc savait manier cette arme et il était trop sage pour ne pas se plier à l'inévitable. Il suivit donc les talons de Beauty Smith, lucubre, sa queue entre les jambes, mais en grondant toujours sourdement. Beauty Smith le surveillait prudemment du coin de l'œil et tenait près son gourdin. Quand ils furent arrivés au fort, Beauté, l'ayant solidement attaché, s'en alla coucher. Cros-Blanc attendit une heure environ. Puis, jouant des dents, en 10 secondes, il fut libre. Il n'avait pas perdu de temps à mordre à tort et à travers, juste ce qu'il fallait. La lanière avait été coupée en deux tronçons, aussi proprement qu'avec un couteau. Gros-Blanc, quittant ensuite le fort, s'était trotté tout droit vers le campement de Castor Gris. Il ne devait aucune fidélité à ce dieu bizarre et terrible qu'il avait emmené. Il s'était donné à Castor Gris et à lui seul il appartenait. Mais ce qui s'était déjà passé recommença. Castor Gris l'attacha à nouveau avec une autre lanière et dès le matin le ramena à Beauty Smith. L'aventure ici se corsa. Beauty Smith lui administra une effroyable volée. Lié fortement, Gros-Blanc ne pouvait que s'abandonner à sa rage intérieure et subir le châtiment qui lui était dévolu. Fouet et gourdin conjuguaient sur lui leurs effets. C'était un des pires traitements qu'il eût reçus en sa vie. Même la raclée dont Castor Gris l'avait gratifié dans son enfance n'était que du lait en regard de celle-ci. Beauty Smith se complaisait à la tâche, il en rayonnait. Ses gros yeux flambaient méchamment, tandis qu'il lançait en avant fouet ou gourdin, et que Gros-Blanc jetait des cris de douleur et des grondements inutiles. Car Beauté était cruel à la façon des lâches. Tremblant et rampant lui-même devant les coups ou les menaces des autres hommes, il prenait sa revanche sur les créatures plus faibles que lui. Tout être vivant aime à dominer un autre être, et Beauté ne faisait pas exception à la règle. Impuissant devant sa race, il exerçait sa vindicte sur les races inférieures. Réflexes inconscients, puisque, nous l'avons dit, il ne s'était pas créé. Le Louveteau n'ignorait pas pourquoi ce châtiment était tombé sur lui. Lorsque Castor Gris lui avait passé une lanière autour du cou et en avait remis l'extrémité à Beauty Smith, Gros-Blanc savait que la volonté de son dieu était qu'il allât avec Beauty Smith. Et lorsque celui-ci l'avait attaché dans le fort, il savait aussi que la volonté du dieu blanc était qu'il demeurât là. Il avait par conséquent obéi à ces deux dieux et mérité le châtiment qui avait suivi. Maintes fois, dans le passé, il avait vu des chiens changer de maître et ceux qui s'enfuyaient battus, comme il l'avait été. Mais, si sage qu'il fût, des forces latentes en sa nature l'avaient emporté sur sa sagesse. La principale de ses forces était la fidélité. Il n'aimait pas Castor Gris, et cependant, même devant son impérative volonté et sa colère, il lui demeurait fidèle. Il ne pouvait s'en empêcher. La fidélité était une qualité inhérente à sa race, celle qui sépare son espèce des autres espèces et qui fait que le loup et le chien sauvage sont capables de quitter la liberté de l'espace pour devenir compagnons de l'homme. La raclée terminée, Gros-Blanc fut attaché dans le fort, non plus avec une lanière de cuir, mais au bout d'un bâton. Il n'en persista pas moins dans sa fidélité à Castor Gris. Castor Gris était son propre dieu, son dieu particulier, et en dépit de la volonté du dieu, il ne prétendait pas renoncer à lui. Son dieu l'avait livré et trahi, c'est qu'il s'était à ce dieu donné corps et âme, sans réserve aucune, et ce don de lui-même ne pouvait être révoqué. Durant la nuit, il renouvela son exploit de la veille. Lorsque les hommes du fort furent endormis, il s'attaqua au bâton auquel il était lié. Mais le bâton était attaché de si près à son cou qu'il ne semblait pas possible qu'il pût arriver à le mordre. C'est là un acte dont tout chien est réputé incapable. Il y réussit cependant, à force de tordre ses muscles et de contorsions acharnées. Ce fut un cas sans précédent. Toujours est-il que Gros-Blanc quitta le fort en trottant au petit matin, portant pendu à son cou la moitié du bâton qu'il avait rongé. La sagesse lui commandait de ne pas revenir vers Castor Gris, qui deux fois déjà l'avait trahi. La survivante de sa fidélité le ramena pour être une troisième fois livré et abandonné. Il fut rattaché par l'Indien et remis à Beauty Smith lorsque celui-ci vint le réclamer. La correction eut lieu sur place et augmenta encore en cruauté. Castor Gris regardait tranquillement, tandis que l'homme blanc manœuvrait sa trique. Il ne donnait plus sa protection. Gros-Blanc n'était plus son chien. Lorsque les coups s'arrêtèrent, le louveteau était à moitié mort. Un faible chien du sud n'eût pas survécu. Lui, il ne mourut pas tout à fait. Son étoffe était plus solide, sa vitalité plus tenace. Mais il était à ce point défaillant qu'il ne pouvait plus se porter et que Beauty Smith dut attendre pour l'emmener, qu'il eût repris quelque force. Aveugle et chancelant, il suivit alors les pas de son bourreau. Il fut ensuite attaché à une chaîne qui défiait ses dents, et ce fut en vain qu'il s'évertua à arracher le cadenas qui reliait cette chaîne à une grosse poutre. Quelques jours après, Castor Gris, devenu un parfait alcoolique et en pleine banqueroute, quitta le Porcupine pour refaire à rebours son long voyage sur le Mackenzie. Gros-Blanc demeurait sur le Yukon la propriété d'un homme plus qu'à demi-fou et le type achevé de la brute. Mais qu'est-ce qu'un loup peut bien comprendre la folie? Pour Gros-Blanc, son nouveau maître était un dieu sinistre, mais toujours un dieu. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait se soumettre à sa volonté, obéir à son désir, se plier à sa fantaisie. Chapitre 17. Le règne de la haine. Sous la tutelle du dieu fou, Gros-Blanc devint à son tour un être vraiment diabolique. Il était tenu enchaîné dans un enclos situé derrière le fort, et où Beauty Smith venait l'agacer, l'irriter et le repousser vers l'état sauvage par toutes sortes de menus tourments. L'homme avait découvert l'irritation spontanée du jeune loup dès que celui-ci voyait rire de lui, et il ne manquait pas cet amusement qui faisait toujours suite à ses traitements inhumains. C'était un rire sonore et méprisant à grands éclats, et tout en riant, le dieu tendait ses doigts vers Gros-Blanc en signe de dérision. Dans ces moments-là, Gros-Blanc sentait sa raison s'en aller. Dans les transports de rage auxquels il s'abandonnait, il devenait plus fou que Beauty Smith lui-même. Gros-Blanc avait été hier l'ennemi de sa race. Il devenait maintenant, avec férocité encore accrue, l'ennemi de tout ce qui l'entourait. Sa haine était aveugle et sans la moindre étincelle de raison. Il haïssait la chaîne qui l'attachait, le passant qui l'épiait à travers les barreaux de son enclos, le chien qui accompagnait ce passant et qui grondait méchamment en insultant à son malheur. Il haïssait les matériaux de l'enclos qui l'emprisonnaient, et bientôt, par-dessus tout, il prit en haine Beauty Smith. Mais Beauté avait un but dans sa conduite. Un beau jour, un certain nombre d'hommes blancs se réunirent autour de l'enclos de Gros-Blanc, et Beauté, étant entré gourdin en main, détacha la chaîne du cou du jeune loup. Celui-ci, lorsque son maître fut sorti, put aller venir en liberté dans l'enclos et commença par vouloir se jeter sur les hommes blancs qui étaient dehors. Il était magnifiquement terrible. Sa taille atteignait alors plus de 5 pieds de long et 2 pieds et demi à la hauteur de l'épaule. Par sa mère, il avait hérité des lourdes proportions du chien, en sorte qu'il pesait, sans une once de graisse ni de chair superflue, dans les 90 livres. Il était tout muscle, tout os et tout nerf, ce qui est la plus belle condition d'un combattant. La porte de l'enclos s'ouvrit à nouveau. Gros-Blanc attendit. Quelque chose d'extraordinaire allait sans doute se produire. La porte s'ouvrit moins étroitement, puis se referma à toute volée sur un énorme mâtin qu'elle avait laissé passer. Gros-Blanc n'avait jamais vu de chien de cette espèce, mais il ne fut troublé ni de la forte taille ni de l'air arrogant de l'intrus. Il ne vit en lui qu'un objet qui n'était ni bois ni fer, et sur lequel il allait enfin pouvoir décharger sa haine. Il bondit sur le mâtin et d'un coup de collot lui déchira le côté du cou. Le mâtin secoua sa tête en grondant horriblement et s'élança à son tour sur Gros-Blanc qui, sans attendre la riposte, se mit, selon sa tactique, à bondir à droite, à bondir à gauche, lançant ses crocs, puis reculant à nouveau sans livrer prise un instant. Du dehors, les hommes criaient et applaudissaient, tandis que Biot et Smith étaient comme en extase du merveilleux succès de ses pratiques. Il n'y eut de l'abord aucun espoir de victoire pour le matin. Il manquait de présence d'esprit dans la conduite du combat et ses mouvements étaient insuffisamment alertes. Finalement, il fut dégagé et traîné dehors par son propriétaire, tandis que Biot et Smith frappaient à tour de bras avec son gourdin sur le dos de Gros-Blanc pour lui faire lâcher prise. Il y eut alors le paiement d'un pari et des pièces de monnaie cliquetèrent dans la main de Biot et Smith. Dès ce jour, tout le désir de Gros-Blanc fut de voir des hommes se réunir autour de son enclos. Car cette réunion signifiait un combat, et c'était la seule voie qui lui restait pour extérioriser sa force de vie, pour exprimer la haine que Beauty Smith lui avait savamment inculquée. Et de ses capacités combatives, Beauty Smith n'avait pas trop préjugé, car il demeurait invariablement le vainqueur. Dans une de ces rencontres, 3 chiens furent successivement abattus par lui. Dans une autre, un loup adulte, nouvellement enlevé au Wild, fut projeté d'une seule poussée à travers la porte de l'enclos. Une 3e fois, il eut à combattre simultanément contre 2 chiens. Ce fut sa plus rude bataille, mais il finit par les tuer tous les deux et faillit lui-même en crever. Lorsque commencèrent à tomber les premières neiges de l'automne et que le fleuve se mit à charrier, Beauté prit passage avec Gros-Blanc sur un steamboat qui remontait le cours du Yukon vers Dawson. Grande était par toute la contrée la réputation de Gros-Blanc. On le connaissait sous le nom du loup combattant dans les moindres recoins du pays et la cage dans laquelle il était enfermé sur le pont du bateau était environnée de curieux. Il rageait et grondait vers eux ou bien se couchait d'un air tranquille en observant tous ces gens dans les profondeurs de sa haine. Et comment ne les eût-il pas haïs? Haïr était sa passion et il s'y noyait. La vie pour lui était l'enfer. Fait pour la liberté sauvage, il devait subir d'être captif et reclus. Les gens le regardaient et agitaient des bâtons entre les barreaux de sa cage pour le faire gronder, puis riait de lui. Quand le steamboat fut arrivé à Dawson, Gros-Blanc vint à terme et toujours dans sa cage et livré au regard du public. On payait 50 cents en poussière d'or le droit de le voir. Afin que les assistants en eussent pour leur argent et que l'exhibition gagnât en intérêt, aucun repos ne lui était laissé. Dès qu'il se couchait pour dormir, un coup de bâton le réveillait. Entre-temps, et dès qu'un combat pouvait être organisé, il était sorti de sa cage et conduit au milieu des bois, à quelques milles de la ville. L'opération s'effectuait d'ordinaire pendant la nuit pour éviter l'intervention des policiers à cheval du territoire. Après plusieurs heures d'attente au point du jour, arrivait l'assistance et le chien contre lequel il devait combattre. Il eut pour adversaire des chiens de toute taille et de toute race. On était en terre sauvage. Sauvages étaient les hommes, mais la plupart des rencontres étaient à mort. La mort était pour les chiens, cela va de soi, puisque Gros-Blanc continuait à combattre. Il ne connaissait toujours pas de défaite. L'entraînement auquel il s'était livré avec Lip-Lip et les jeunes chiens du camp indien lui servait à cette heure. Pas un de ses adversaires n'arrivait à le culbuter. Chiens du Mackenzie, chiens esquimaux du Labrador, mastocs ou malemutes, chiens aboyeurs et chiens muets, tous étaient impuissants contre lui. Jamais il ne perdait pied. C'est là que le public l'attendait, mais toujours il déconcertait cet espoir. Non moins rapide était la promptitude de son attaque, à ce point qu'il mettait à mal son adversaire 9 fois sur 10 avant même que celui-ci se fût paré pour la défense. Le fait se renouvela si souvent que l'usage s'établit de ne point lâcher Gros-Blanc avant que le chien adverse eût achevé ses préliminaires de bataille ou même se fût rué le premier à l'assaut. Mais peu à peu, les rencontres de ce genre se firent plus rares. Les partenaires se décourageaient, ne trouvant plus de champion de force équivalente à lui opposer. Beauty Smith était forcé de lui donner à combattre des loups qu'il se procurait. Ces loups étaient capturés au piège par des Indiens, et l'annonce d'un de ces duels ne manquait pas d'attirer un important concours de spectateurs. On alla jusqu'à lui présenter une grande femelle de lynx, et cette fois, il combattit pour sa vie. La vitesse du lynx valait la sienne, et sa férocité n'était pas inférieure à celle de Gros-Blanc. Tandis qu'il n'avait que ses crocs pour seules armes, le lynx luttait avec toutes les griffes de ses 4 pattes en même temps qu'avec ses dents acérées. La victoire resta cependant à Gros-Blanc, et les combats cessèrent jusqu'à nouvel ordre. Il avait épuisé toutes les variétés possibles d'adversaires. Il redevint donc un simple objet d'exhibition. Cela dura jusqu'au printemps, lorsqu'advint dans le pays un nommé Tim Keenan, tenancier de jeu, qui amenait avec lui le premier bulldog que l'on eût vu au Klondike. Que ce chien et Gros-Blanc dussent entrer en lice face à face était chose inévitable. Durant une semaine, le combat qui se préparait, fit l'objet de toutes les conversations dans le monde spécial qui fréquentait certains quartiers de la ville. Chapitre 18. La mort adhérente. Lorsque l'heure de la rencontre fut venue, Beauty Smith détacha la chaîne qui retenait Gros-Blanc et se retira en arrière. Gros-Blanc, pour une fois, ne fit pas une attaque immédiate. Il demeura immobile, les oreilles pointées en avant, alerte et curieux, observant l'étrange animal qu'il avait devant lui. Jamais il n'avait vu un semblable chien. Tim Keenan poussa le bulldog en lui disant à mi-voix « Vas-y !» Le bulldog se dandinait au centre du cercle qui entourait les deux champions, court, trapu et l'air gauche. Il s'arrêta après quelques pas et loucha vers Gros-Blanc. Il y eut des cris dans la foule. « Vas-y, Cherokee, crève-le, Cherokee, bouffe-le !» Mais Cherokee ne semblait pas disposé à combattre. Il tourna la tête vers les gens qui criaient, en clignant de l'œil, en agitant son bout de queue avec bonne humeur. Oh, ce n'était pas qu'il eût peur de Gros-Blanc. Non, c'était simple paresse de sa part. Il ne semblait pas, d'ailleurs, qu'il fût dans ses obligations de combattre le chien qu'on lui présentait. Cette espèce ne figurait point sur la liste à laquelle il était accoutumé, et il attendait qu'on lui offrît un autre chien. Kim Kinan entra dans l'enceinte et, se courbant vers Cherokee, se mit à lui gratter les deux épaules, à lui rebrousser le poil, enfin, de l'inciter à aller de l'avant. Le résultat en fut d'irriter le chien peu à peu. Cherokee commença à gronder d'abord en sourdine, puis plus âprement dans sa gorge. Au rythme des doigts correspondait celui des grondements, qui, au fur et à mesure que le mouvement de la main s'accélérait, devenaient plus intenses et brusquement se terminèrent en un aboi furieux. Tout ce manège ne laissait pas non plus Gros Blanc insensible. Son poil se soulevait sur son cou et sur ses épaules. Tim Kinan, après avoir passé la main sur le poil de sa bête encore une fois, abandonna Cherokee à lui-même. Le bulldog était prêt à s'élancer. Mais déjà Gros Blanc avait frappé. Un cri d'admiration et de stupeur s'éleva. Avec la rapidité et la souplesse d'un chat plutôt que d'un chien, il avait couvert la distance qui le séparait de son adversaire, puis avait rebondi au large après l'avoir lacéré. Le bulldog saignait d'une oreille arrachée et d'une large morsure dans son cou épais. Il n'eut pas l'air d'y prêter attention, ne laissa pas échapper une plainte, mais marcha sur Gros Blanc. La vélocité de l'un, l'inébranlable tenue de l'autre, passionnait la foule. Les premiers paris se renouvelèrent avec une mise augmentée. D'autres furent engagés. La même attaque et la même parade se répétèrent. Gros Blanc bondit encore en avant, lacéra puis reflua en arrière sans être touché. Et encore, son étrange ennemi le poursuivit sans trop se presser, sans lenteur excessive, mais délibérément, avec détermination, comme on traite une affaire. Il avait de toute évidence un but qu'il se proposait, une méthode pour arriver à ce but. Le reste ne comptait pas et ne devait pas le distraire. Gros Blanc s'en aperçut et cela le rendit perplexe. Il en était tout dérouté. Ce chien était décidément bien étrange. Il avait le poil ras et ne possédait point de fourrure protectrice. Les morsures s'enfonçaient sans peine dans une chair grasse qu'aucun matelas ne protégeait. Et il ne semblait pas que l'animal eût la capacité de s'en défendre. Il ne se fâchait pas non plus et saignait sans se plaindre, ce qui était non moins déconcertant. À peine un léger cri lorsqu'il avait reçu son châtiment. Ce n'était pourtant pas que Cherokee fût impuissant à se mouvoir. Il tournait et virait même assez vite, mais Gros Blanc n'était jamais là où il le cherchait. Il en était fort perplexe, lui aussi. Il n'avait jamais combattu avec un chien qu'il ne pouvait appréhender, avec un adversaire qui ne cessait pas de danser et de biaiser autour de lui. Gros Blanc ne réussissait pas cependant à atteindre, comme il l'eût voulu, le dessous de la gorge du bulldog. Celui-ci la tenait trop bas et ses mâchoires massives lui étaient une protection efficace. Le sang de Cherokee continuait à couler. Son cou et le dessus de sa tête étaient tailladés et il persistait à poursuivre inlassablement Gros Blanc, qui restait indemne. Une seule fois, il s'arrêta durant un moment, abasourdi, en regardant de côté vers Tim Kinan et en agitant son tronçon de queue en signe de bonne volonté. Puis il reprit avec application sa poursuite, en tournant en rond derrière Gros Blanc. Soudain, il coupa le cercle que tous deux décrivaient et tenta de saisir son adversaire à la gorge. Il ne le manqua que de l'épaisseur d'un cheveu, et des applaudissements crépitèrent à l'adresse de Gros Blanc qui avait échappé. Le temps passait. Groblard répétait ses soubresauts, et Cherokee s'acharnait avec la sombre certitude que tôt ou tard, il atteindrait son but. Ses oreilles n'étaient que de minces rubans, plus de 100 blessures les couvraient, et ses lèvres même saignaient, toutes coupées. Parfois, Croblant s'efforçait de le renverser à terre, pattes en l'air en se jetant sur lui. Mais son épaule était plus haute que celle du chien, et la manœuvre avortait. Il s'obstina à la renouveler, et dans un élan plus fort qu'il avait pris, il passa par-dessus le corps de Cherokee. Pour la première fois depuis qu'il se battait, on vit Croblant perdre le pied. Il tournoya en l'air pendant une seconde, se retourna comme un chat, mais ne réussit pas à retomber immédiatement sur ses pattes. Il chut lourdement sur le côté, et quand il se redressa, les dents du bulldog s'étaient incrustées dans sa gorge. La prise n'était pas bien placée. Elle était trop bas vers la poitrine, mais elle était solide. Croblant, avec une exaspération frénétique, s'efforça de secouer ses dents resserrées sur lui, ce poids qu'il sentait pendu à son cou. Ses mouvements maintenant n'étaient plus libres. Il lui semblait qu'il avait été happé par une chausse-trappe. Tout son être s'en révoltait au point de tomber en démence. La peur de mourir avait tout à coup surgi en lui, une peur aveugle et désespérée. Il se mit à virer, courir à droite, courir à gauche, tant pour se persuader qu'il était toujours vivant que pour tenter de détacher les 50 livres que traînait sa gorge. Le bulldog se contentait, à peu de choses près, de conserver son emprise. Quelquefois, il tentait de reprendre pied pendant un moment afin de secouer Croblant à son tour. Mais l'instant d'après, Croblant l'enlevait à nouveau et l'emportait à sa suite dans ses mouvements giratoires. Cherokee s'abandonnait consciemment à son instinct. Il savait que sa tâche consistait à tenir dur, ayant éprouvé de petits frissons joyeux. Il fermait béatement les yeux et, sans se raidir, se laissait balloter de ci de là avec abandon, indifférent aux heurts auxquelles il était exposé. Croblant ne s'arrêta que lorsqu'il fut exténué. Il ne pouvait rien contre son adversaire. Jamais pareille aventure ne lui était arrivée. Il se coucha sur ses jarrets, pantelant et cherchant son souffle. Sans relâcher son étreinte, le bulldog tenta de le renverser complètement. Croblant résista à cet effort, mais il sentit que les mâchoires qui le tenaillaient, par un imperceptible mouvement de mastication, portaient plus haut leur emprise. Patiemment, elle travaillait à se rapprocher de sa gorge. Dans un mouvement spasmodique, il réussit à mordre lui-même le cou gras de Cherokee, là où il rattacha l'épaule. Mais il se contenta de le lacérer pour lâcher prise ensuite. Il ignorait la mastication de combat et sa mâchoire au surplus n'y était point apte. Un changement se produisit à ce moment dans la position des deux adversaires. Le bulldog était parvenu à rouler Croblant sur le dos, et toujours accroché à son cou, lui était monté sur le ventre. Alors Croblant, se ramassant sur son train de derrière, s'était mis à déchirer à coups de griffe, à la manière d'un chat, l'abdomen de son adversaire. Cherokee n'eût pas manqué d'être éventré s'il n'eût rapidement pivoté sur ses dents serrées, hors de la portée de cette attaque imprévue. Mais le destin était inexorable, comme la mâchoire, qui, dès que Croblant demeurait un instant immobile, continuait à monter le long de la veine jugulaire. Seule la peau flasque de son cou et l'épaisse fourrure qui la recouvrait sauvaient encore de la mort le jeune loup. Cette peau formait un gros rouleau dans la gueule du bulldog, et la fourrure défiait tout entame de la part des dents. Cependant, Cherokee absorbait toujours plus de peau et de poils, et de la sorte étranglait lentement Cro-Blanc, qui respirait et soufflait de plus en plus difficilement. La bataille semblait virtuellement terminée. Ceux qui avaient parié pour Cherokee exultaient et offraient de ridicules surenchères. Ceux, au contraire, qui avaient misé sur Cro-Blanc étaient découragés et refusaient des paris à 10 pour 1, à 20 pour 1. On vit alors un homme s'avancer sur la piste du combat. C'était Beauty Smith. Il étendit son doigt dans la direction de Cro-Blanc, puis se mit à rire avec dérision et mépris. L'effet de ce geste ne se fit pas attendre. Cro-Blanc, en proie à une rage sauvage, appela à lui tout ce qui lui restait de force et se remit sur ses pattes. Mais après avoir traîné encore autour du cercle les 50 livres qu'il portait, sa colère tourna en panique. Il ne vit plus que la mort adhérente à sa gorge et trébuchant, tombant, se relevant, enlevant son ennemi de terre, il lutta vainement, non plus pour vaincre, mais pour sauver sa vie. Il tomba à la renverse, exténué, et le bulldog en profita pour enfouir dans sa gueule un bourrelet de peau et le poil encore plus gros. La strangulation complète était proche. Des cris, des applaudissements s'élevèrent à la louange du vainqueur. On clama « Cherokee ! Cherokee !» Cherokee répondit en remuant le tronçon de sa queue, mais sans se laisser distraire de sa besogne. Il n'y avait aucune relation de sympathie entre sa queue et ses mâchoires massives. L'une pouvait s'agiter joyeusement sans que les autres détendissent leur implacable étau. Une diversion inattendue survint sur ces entrefaites. Un bruit de grelots résonna, mêlé à des aboiements de chiens de traîneau. Les spectateurs tournèrent la tête, craignant de voir arriver la police. Non, il n'en était rien. Le traîneau venait à toute vitesse de la direction opposée à celle du fort, et les deux hommes qui le montaient rentraient sans doute de quelque voyage d'exploration. Apercevant la foule, ils arrêtèrent leurs chiens et s'approchèrent afin de se rendre compte du motif qui réunissait tous ces gens. Celui qui conduisait les chiens portait moustache. L'autre, un grand jeune homme, était rasé à fleur de peau. Il était tout rouge du sang que l'air glacé et la rapidité de la course lui avaient fait affluer au visage. Cro-Blanc continuait à agoniser et ne tentait plus de lutter. Seuls des spasmes inconscients le soulevaient encore par saccades en une résistance machinale qui s'éteindrait bientôt avec son dernier souffle. Beauty Smith ne l'avait pas perdu de vue une seule minute. Même les nouveaux venus ne lui avaient pas fait tourner la tête. Lorsqu'il s'aperçut que les yeux de son champion commençaient à se ternir, quand il se rendit compte que tout espoir de vaincre était perdu, l'abîme de brutalité où se noyait son cerveau submergea le peu de raison qui lui demeurait. Perdant toute retenue, il s'élança férocement sur Cro-Blanc pour le frapper. Il y eut des cris de protestation et des sifflets, mais personne ne bougea. Beauty Smith persistait à frapper la bête à coups de souliers ferrés lorsqu'un remous se produisit dans la foule. C'était le grand jeune homme qui se frayait un passage, écartant les gens à droite et à gauche sans cérémonie ni douceur. Lorsqu'il parvint sur l'arène, Beauty Smith était justement en train d'envoyer un coup de pied à Cro-Blanc et une jambe levée se tenait en équilibre instable sur son autre jambe. L'instant était bon et le grand jeune homme en profita pour appliquer à Beauty Smith un maître coup de poing en pleine figure. Beauté fut soulevée du sol, tout son corps cabriola en l'air, puis il retomba violemment à la renverse sur la neige battue. Se tournant ensuite vers la foule, le grand jeune homme cria « Tas de lâches ! Tas de brutes !» Il était en proie à une rage folle, à une sainte colère. Ses yeux gris avaient des lueurs métalliques et des reflets d'acier qui fulguraient vers la foule. Beauty Smith, une fois debout, s'élança vers lui, reniflant et apeuré. Le nouveau venu, sans attendre de savoir ce qu'il voulait et ignorant l'abjection du personnage, pensa que Beauté désirait se battre. Il se hâta donc de lui écraser la face d'un second coup de poing avec un « espèce de brute ». Beauty Smith, renversé à nouveau, jugea que le sol était la place la plus sûre qu'il y eut pour lui, et il resta couché là où il était tombé, sans plus essayer de se relever. « Viens ici, Matt, et aide-moi !» dit le grand jeune homme à son compagnon qui l'avait suivi dans le cercle. Les deux hommes se courbèrent vers les combattants. Matt soutint un gros blanc, prêt à l'emporter dès que la mâchoire de Cherokee se serait détendue. Mais le grand jeune homme tenta en vain avec ses mains d'ouvrir la gueule du bulldog. Il suait, tirait, soufflait, en s'exclamant entre chaque effort « Mais brute !» La foule commença à grogner et à murmurer. Les plus hardis protestèrent qu'on venait les déranger dans leur amusement. Mais ils se taisaient dès que le grand jeune homme, quittant son occupation, les fixait les yeux et les interpellait. « Brute, ignoble brute que vous êtes !»« Tous vos efforts ne servent de rien, monsieur Scott, » dit Matt à la fin. « Vous ne pourrez les séparer en vous y prenant ainsi. » Ils se relevèrent et examinèrent les deux bêtes toujours rivées l'une à l'autre. « Il ne saigne pas beaucoup, » prononça Matt. « Il ne va pas mourir encore. » « Mais la mort peut survenir dans un instant, » répondit Scott. « Là, vois-tu ?» Le bulldog a remonté encore un peu sa morsure. Il frappa Cherokee sur la tête durement et plusieurs fois. Les dents, pour autant, ne se desserrèrent point. Cherokee remet son tronçon de queue, ce qui voulait dire qu'il comprenait la signification des coups, mais aussi qu'il savait être dans son droit et accomplir strictement son devoir en refusant de lâcher prise. « Allons, quelqu'un de vous ne viendra-t-il pas nous aider ?» cria Scott à la foule en désespoir de cause. Mais son appel demeura vain. On se moqua de lui, on lui donna de facétieux conseils, on le blagua avec ironie. Il fouilla dans l'étui qui pendait à sa ceinture, et en tira un revolver, dont il s'efforça d'introduire le canon entre les mâchoires de Cherokee. Il taraudait si dur qu'on entendait distinctement le crissement de l'acier contre les dents. Les deux hommes étaient à genoux, courbés sur les deux bêtes. Tim Kinnan s'avança vers eux sur l'arène, et s'étant arrêté devant Scott, lui toucha l'épaule en disant « Ne brisez pas ses dents, étranger !» « Alors c'est son cou que je lui briserai, » répondit Scott en continuant son mouvement de va-et-vient avec le canon du revolver. « Non, je dis, ne brisez pas ses dents, » répéta le maître de Cherokee d'un ton plus solennel encore. Mais son bluff fut inutile et Scott ne se laissa pas démonter. Il leva les yeux vers son interlocuteur et lui demanda froidement « Ton chien ?» Kim Kinnan émit un grondement affirmatif. « Alors viens à ma place et brise sa prise. » Tim Kinnan s'irrita. « Étranger, je n'ai pas pour habitude de me mêler des choses que je ne saurais faire. Je serais impuissant à ouvrir ce cadenas. Alors Scott, toi de là, ne m'embête pas. » Scott avait déjà réussi à insinuer le canon du revolver sur un des côtés de la mâchoire. Il manœuvra tant et tant qu'il atteignit l'autre côté. Après quoi, comme il eut fait avec un levier, il desserra peu à peu les dents du bulldog. Matt sortait à mesure, de la gueule entr'ouverte, le bourrelet de peau et de poils de crocs blancs. « Prépare-toi à recevoir ton chien !» ordonna Scott d'un ton péremptoire à Tim Kinnan, qui était demeuré debout sans s'éloigner. Tim Kinnan obéit, et se penchant, saisit fortement Cherokee qu'une dernière pensée du revolver décrocha complètement. Le bulldog se débattait avec vigueur. « Tire-le au large !» commanda Scott. Tim Keenan et Shorty, l'un traînant l'autre, s'éloignèrent parmi la foule. Gros-Blanc fit pour se relever plusieurs efforts inutiles. Comme il était arrivé à se remettre sur ses pattes, ses jarrets trop faibles le trahirent et il s'affaissa mollement. Ses yeux étaient mi-clos et leurs prunelles toutes ternes. Sa gueule était béante et la langue pendait, gonflée et inerte. Il avait l'aspect d'un chien qui a été étranglé à mort. Matt l'examina. « Il est à bout, mais il respire encore. » Durant ce temps, Beauty Smith s'était remis droit et s'approcha. « Matt, combien vaut un bon chien de traîneau ?» demanda Scott. Le conducteur du traîneau, encore agenouillé sur Gros-Blanc, calcula un moment. « 300 $ !» répondit-il. « Et combien pour un chien en marmelade comme celui-ci ?»« Bon, la moitié. » Scott se tourna vers Beauty Smith. « Entends-tu, monsieur la brute ? Je vais prendre ton chien et te donner pour lui 150 $ !» Il ouvrit son portefeuille et compta les billets. Mais Beauty Smith croisa ses bras derrière son dos et refusa de prendre la somme. « Je suis pas vendeur, » dit-il. « Oh, si tu l'es, » assura l'autre, « parce que je suis acheteur. Voici ton argent, le chien m'appartient. » Beauty Smith, les mains toujours derrière le dos, se recula. Scott avança vivement vers lui, le poing levé pour frapper. Beauty Smith se courba en prévision du coup. « J'ai mes droits, » gémit-il. « Tu as forfait à ces droits. Es-tu disposé à recevoir cet argent ? Ou vais-je avoir à frapper de nouveau ?»« C'est bon, » dit Beauty Smith, avec toute la célérité de la peur. « Mais je prends l'argent en protestant, » ajouta-t-il. « Le chien est mon bien. » « Je suis volé à un homme à ses droits. »« Très correct, » répondit Scott en lui remettant les billets. « Un homme à ses droits, mais tu n'es pas un homme, tu es une sale brute. »« Attendez que je revienne à Dawson, » menaça Beauty Smith. « J'aurai la joie pour moi. »« Si tu ouvres le bec à ton retour à Dawson, je te ferai expulser de la ville, est-ce compris ?» Un grognement fut la réplique. « Comprends-tu ?» cria Scott dans un accès soudain de colère. « Oui, » grogna encore Beauty Smith en se reprenant à reculer. « Oui, qui ?»« Oui, monsieur. »« Attention, il va mordre !» jeta quelqu'un dans la foule, et de grands éclats de rire s'élevèrent. Scott, tournant le dos, s'en revint aider son compagnon qui poussait Gros-Blanc vers le traîneau. Une partie des spectateurs s'était éloignée. D'autres étaient restés, formant des groupes qui regardaient et causaient. Tim Keenan rejoignit un de ces groupes. « Quelle est cette gueule ? » demanda-t-il. « Whedon Scott, » répondit quelqu'un. « Par tous les diables, qui alors est-ce Whedon Scott ? » ?»« Bon, de ces crâneurs d'ingénieurs des mines. » Il est au mieux avec toutes les grosses punaises de Dawson. Si vous craignez les ennuis, vous ferez bien de naviguer loin de lui. Voilà ce que je vous dis. Il est intime avec tous les fonctionnaires. Le commissaire de l'or est son meilleur copain. Me doutez bien qu'il était quelqu'un, dit Tim Keenan. C'est pourquoi je l'ai ménagé.